religion.
On retrouve Haïm Korsia pour les mots de la Torah.
Bonjour Haïm Korsia.
Bonjour.
Il y a un mot qui m'intrigue, j'aimerais savoir s'il figure dans la Torah, c'est le mot prêtre.
Bien sûr, il figure.
Il figure.
Il figure pratiquement, pratiquement en permanence parce que Dieu un moment s'adresse au peuple d'Israël, donc à nous tous, et nous dit, vous êtes pour moi, en hébreu, je préfère le dire en hébreu parce que ça a du sens, Mamlechet Kohanim, Begoy Kadosh. Vous êtes pour moi un royaume de prêtres et un peuple saint. Nous sommes tous, donc, tous ceux qui sont liés à ce message biblique, nous sommes tous un peuple de prêtres et un peuple saint, un royaume de prêtres.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes tous prêtres, alors?
Le mot prêtre renvoie en réalité à une tribu, la tribu des Lévites.
Oui.
Qui était, donc, la tribu venant du troisième fils de Jacob, qui s'appelait Lévi, donc la tribu des Lévites. Cette tribu s'est sous-divisée en l'ensemble des Lévites, mais une partie est devenue les Kohen, pluriel Kohanim. On a des gens qui s'appellent Kohen,
oui,
et qui sont donc prêtres. Aujourd'hui, ça n'a quasiment aucune incidence, sauf dans le rituel. Alors, par exemple, c'est les Kohen, quel que soit leur nom. Il y a des gens qui s'appellent Kan, le grand rabbin Kaplan, dont nous parlions récemment encore, était Kohen. C'est-à-dire qu'il était d'une famille de prêtres. Et d'ailleurs, son nom Kaplan vient d'une déformation du mot chaplain.
Ah oui.
Chaplain, qui est un chaplain, l'aumônier, c'est ça le sens. Donc il était prêtre.
Alors quand vous dites qu'il était Kohen, ça veut dire qu'il
était... Ça implique qu'il monte le premier à la Torah. Lorsqu'on lit le texte de la Bible, on a les démontés, chacun monte. Et celui qui monte le premier, c'est le Kohen. Le second, c'est le Lévi. Et le troisième, c'est n'importe qui. Ensuite, 4, 5, 6, 7, n'importe qui. Deuxième chose, c'est lui qui bénit l'assemblée.
Mm-hmm.
En tout cas, il préside à cette bénédiction. Et le grand rabbin Kaplan, l'image que tout le monde en a, c'est lorsqu'il mettait son châle de prière sur ses bras et qu'il levait ses bras et qu'il bénissait l'assemblée. Et il disait cette phrase très connue, la bénédiction sacerdotale, que l'Éternel te bénisse, te protège, qu'il tourne sa face vers toi, qu'il t'illumine de sa lumière, etc.
Comme il était très grand, ça devait évidemment, avoir une ampleur.
Que l'Éternel te bénisse, te protège. Et on se sentait vraiment habité à ce moment-là, il nous transmettait quelque chose. Mais la notion de prêtre, pour nous, c'est avant tout une grande responsabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le prêtre? C'est celui qui ne travaille pas pour lui, celui qui œuvre pour la communauté, à charge de la communauté de travailler pour lui. Les prêtres, par exemple, n'avaient pas d'héritage dans la Bible. Et donc, n'ayant pas d'héritage, ils n'avaient pas de bien. Et c'était donc les fidèles qui devaient entretenir les prêtres, qui étaient déchargés, en quelque sorte, de cette responsabilité, et pouvaient donc se consacrer intégralement au service du peuple. Et, si vous voulez bien, je vais vous parler en particulier de deux, trois occurrences où le prêtre apparaît de manière extraordinaire dans la Bible. L'une d'entre elles, c'est lorsque un homme ou une femme était frappé d'une lèpre très particulière, pas la lèpre, c'est une forme d'affectation de la peau, on a traduit par lèpre. Les Talmud disent que c'était lorsque quelqu'un faisait de la médisance. Il devait s'éloigner du camp, rester 7 jours en dehors du camp, dans le désert, pour ensuite attendre que le prêtre vienne le voir en lui disant « tu es pur ». Et le prêtre ne faisait pas quelque chose de magique en disant « ça a été pur, tu n'as plus cette atteinte dermatologique ». Mais il redonnait à cette personne l'importance du sens de la parole. Ou le sens de l'importance de la parole.
Mm-hmm.
Deux choses différentes, mais qu'on peut formuler avec un mot en inversant les mots. C'est-à-dire, quand vous vous attendez pendant 7 jours tout seul et que vous attendez un seul mot, vous comprenez que vous, qui en avez prononcé beaucoup et beaucoup trop et à tort à travers, vous avez risqué de casser quelque chose. Et le prêtre est celui qui rappelle l'importance de la parole. Comme le prêtre est celui qui rappelle l'importance du geste, la responsabilité de chacun. Le prêtre est celui qui venait, qui faisait le sacrifice au temple des animaux et qui rappelait qu'il ne s'agissait pas uniquement d'épater tout le monde avec un beau sacrifice, mais qu'il s'agissait de venir dire, mettre ses mains sur le sacrifice et dire « Seigneur, n'était-ce ton immense miséricorde, ce serait moi qui aurais dû être sacrifié. Mais tu nous permets de transférer nos fautes quelque sorte sur un animal pour nous faire prendre conscience. » Mais le prêtre devait rappeler tout cela aux fidèles. Et si vous voulez, la fonction du prêtre, c'est d'être un peu le rappel d'une situation. Voilà pourquoi les Hébreux, enfin Israël, tous, nous tous, avons été appelés par Dieu un royaume de prêtres. Parce que c'est la responsabilité qui est la nôtre. Dit autrement, dans les évangiles par exemple, on nous dit vous êtes le sel de la terre. Mmh. Vous êtes ceux qui n'êtes pas forcément au-dessus des autres. Le sel, c'est la chose la plus minime qui soit, la plus simple. En ce terme, il n'y a aucun effet de l'homme, aucun effort de l'homme dessus. Mais vous êtes nécessaire pour rappeler chacun à son devoir, à son chemin. Voilà ce qu'est un prêtre. Le prêtre, c'est celui qui, parce qu'il est légèrement rentré dans le monde, peut nous y réinsérer parfaitement.
Eh bien, le grand prêtre, on le voit aussi apparaître plusieurs fois dans l'histoire. Alors,
le grand prêtre, le premier grand prêtre, c'est Aaron, frère de Moïse. Alors, le grand prêtre, c'est celui qui avait fonction d'amener la bénédiction sur le peuple, notamment le grand acte qu'il faisait, c'est le jour du grand pardon. Il entrait dans le Saint des Saints, dans le temple, et il faisait un sacrifice. Il apportait des encens, etc. Le grand prêtre, c'est celui vers lequel convergent tous les regards. Et d'une certaine manière, il est le parallèle, le contre-pouvoir, disons le parallèle du chef de Moïse. Dans le désert, le peuple est bicéphale. Il y a Moïse et Aaron. À tout pouvoir, il doit y avoir un contre-pouvoir. De la même manière que dans la Bible, littéralement, on aura le roi et le prophète, qui est seul capable de venir houspiller le roi à la face de tous. Combien de fois, roi, tel ou tel roi, rappelle-toi au souvenir de la Torah, n'oublie pas ta promesse, etc. Bon. Je pense à Nathan, je pense à tous les grands prophètes qui sont venus, parfois très vertement, à leur risque et péril, et parfois ça chauffait pour les prophètes. Rappeler le roi à ses devoirs. Le prêtre, oui, notamment le grand prêtre, c'est le parallèle, donc l'équilibre de Moïse. On voit dans la Bible que lorsque Moïse n'est pas là, et que le prêtre est tout seul, le prêtre qui est défini, et j'ai souvenir d'une phrase du secrétaire perpétuel, M. Jean Cluzel, lors de l'hommage rendu ici à l'Académie sociale et politique au grand rabbin Kaplan, qui rappelait que le grand rabbin Kaplan, qui était Cohen, donc, portait cette bénédiction et était chargé porteur d'une triple mission. Il devait aimer la paix, courir après la paix et rapprocher toutes les créatures les unes des autres. Ça, c'était la fonction du prêtre. Mais quand vous avez cette fonction, vous êtes dans un acte d'amour. Mais l'acte d'amour absolu, quand vous êtes un dirigeant, c'est dangereux s'il n'est pas contrebalancé par un minimum de justice. Donc Moïse incarnait cette justice et Aaron cet amour. Si vous laissez l'amour seul, Aaron seul, c'est une catastrophe, ça donnait le veau d'or. Lorsque Moïse était en retard sur le mont Sinaï, Aaron est soumis à la pression du peuple qui lui dit « on a peur, mets-nous quelqu'un entre Dieu et nous pour nous ramener en Égypte ». Aaron aime tellement le peuple qu'il n'ose pas affronter le peuple. D'abord, il a peur, et puis il n'ose pas, parce que quand vous aimez quelqu'un, c'est difficile de lui dire non. Et le grand prêtre, seul, a failli, en quelque sorte, il a fait le veau d'or. Quand Aaron meurt, et que Moïse se retrouve seul, certes, le fils d'Aaron, Éléazar, va lui succéder comme grand prêtre, mais c'est plus le grand prêtre, celui qui était le binôme de Moïse. Moïse, qui est la rigueur, va se trouver en porte-à-faux avec le peuple. Et le peuple va dire, où est la tendresse infinie que nous accordait Aaron ? Où est le gant de velours dans lequel ta main de fer pouvait entrer, pouvait... C'est trop dur avec nous. C'est ça, on veut rentrer en Égypte. On était bien en Égypte. On avait des poissons gratuits, on était très bien. Donc vous voyez, c'est toujours un équilibre. Et le grand prêtre, c'est celui qui permet d'équilibrer le pouvoir du chef ou du roi. Mais c'est une fonction, c'était une fonction éminemment importante et pour laquelle il y avait deux d'ailleurs adjoints. L'adjoint, le numéro 2 du grand prêtre, et l'aumônier général, qu'on appelait le grand prêtre chargé d'aller prêcher lors des guerres, etc. Et qui faisait une seule chose, il ne prêchait pas pour la guerre, rassurez-vous. Il prêchait pour dire, celui qui a construit une maison et ne l'a pas habité, n'aille pas au combat. De peur qu'il meure au combat et qu'un autre habite la maison qu'il a construite. Celui qui s'est marié et n'a pas vécu avec sa femme, qui n'aille pas au combat. Celui qui a planté une vigne, n'aille pas au combat. Et celui qui a peur, qui n'aille pas au combat non plus. Donc ça permettait de redonner une humanité même à la guerre. Voilà la fonction du grand prêtre.
Alors, pardonnez une dernière question à Haïm Korsia, très naïve. Est-ce qu'un rabbin peut dire que c'est comme un prêtre ?
Je ne peux pas me permettre d'usurper cette qualité.
Comment on considère en fait le rabbin ?
Je vais vous dire comment on considère le rabbin. Vous me permettez de conclure par une belle image que j'ai toujours beaucoup aimée. Le Talmud dit, il y a trois couronnes dans le monde. La couronne de royauté, la couronne de la prêtrise et la couronne de la Torah. La couronne de la royauté, soit vous êtes roi, soit vous n'êtes pas roi. La couronne de la prêtrise, soit vous êtes prêtre, soit vous n'êtes pas prêtre. Donc celle-là, elle est limitée pour certains. Mm-hmm. Mais la couronne de la Torah, celle de l'étude, elle est accessible à tout le monde. Mm-hmm. Et d'une certaine manière, les rabbins visent avoir, peut-être pas la couronne, mais tout plus le diadème de la Torah. Une petite couronne, vous voyez, une marque
mais
de la couronne.
Mais ils sont dans l'étude, c'est ça, dans
voilà,
la connaissance.
On est plutôt dans l'étude, alors que le prêtre est vraiment dans le rapprochement des hommes entre eux, ce qu'aussi on est censé faire. Mais c'est un autre type de mission.
Mais néanmoins, les rabbins sont aussi dans le rite. Ils ont une liturgie. Donc, ils ne sont pas seulement dans l'étude.
Ce n'est pas une liturgie exclusive. N'importe qui peut faire l'office à la place d'un rabbin. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas de rôle sacramentel du rabbin. N'importe qui peut diriger l'office. Non, le prêtre avait vraiment, à l'époque du temple en particulier, un rôle tout à fait hors du commun. Et de nos jours, ça se limite, je vous dis, à cette bénédiction, à monter à la Torah et deux, trois cérémonies comme le rachat du premier-né. Vous savez que dans la Bible, il y avait un rôle particulier pour les premiers-nés. Tous les premiers-nés sont consacrés à Dieu. Donc les familles doivent en quelque sorte les racheter au prêtre. Alors c'est symbolique, mais ça veut dire, finalement, c'est une façon de retrouver l'humilité devant ce don merveilleux d'un enfant que Dieu nous fait.
Merci à Haïm Korsia de nous avoir éclairé sur cette notion, s'il en est ambiguë, du mot prêtre dans la Torah. À bientôt.
Au revoir.